Alors, dans notre texte de ce matin, il est question de honte. La honte à cause de ce qu'on a fait. Un courant dans notre société nous pousse à penser que la culpabilité est une fausse idée dont on peut et dont il est bon de se débarrasser avec un minimum de psychologie. Alors oui, c'est vrai, on peut ressentir une honte qui n'est pas justifiée. Par exemple, quand on est victime d'une agression ou d'une injustice, ou bien rabaissé par quelqu'un qui compte pour nous. Et dans ces cas-là, apprendre à différencier nos réelles responsabilités de celles qui ne nous incombent pas, cela est bon et libérateur. Mais on aurait tort de limiter la honte et le sentiment de culpabilité uniquement à ces situations. La honte, c'est quelque chose qu'il est légitime de ressentir quand on n'est pas à sa place ou quand on a mal agi. Par exemple, quand sur mon vélo, vendredi, j'ai eu un geste déplacé envers un automobiliste. Être en faute, être coupable, c'est vraiment inconfortable. On ne veut pas rester dans cette situation. Et plusieurs pistes assez naturelles permettent de camoufler ce qu'on a fait. Le premier instinct, c'est se justifier, trouver des excuses pour montrer à d'autres ou se prouver à soi-même que finalement ce n'est pas si grave. Par exemple, j'avais la priorité et il allait m'écraser si je ne m'étais pas arrêtée. Mais notre Dieu dans la Bible nous montre que le mal, que nos fautes, c'est grave. Et cette bouffée de haine de ma part envers cet automobiliste n'était pas selon sa volonté. Une autre piste, c'est cacher sa faute, essayer de l'étouffer, de l'oublier. Ouf, personne que je connais m'a vu, ma réputation est sauve. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire face à nos fautes? Probablement par peur de ne pas être aimé, d'être rejeté par les autres. Ou bien alors, on se sent en danger pour soi, dans notre identité. On voudrait être quelqu'un de bien, parce que pour s'accepter soi-même, on a besoin d'avoir une bonne image de soi. Mais voilà, tout ça, ça ne tient pas à l'épreuve de la vérité. C'est comme mettre une petite couche de plâtre sur un mur qui menace de s'écrouler, en pensant qu'il va redevenir solide. Dans notre texte, nous allons voir comment un homme était dans une situation telle qu'il ne pouvait ni nier sa faute, ni s'en sortir par lui-même. Et comment c'est Dieu lui-même qui l'a sorti de là. La solution, la seule vraie solution est en Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apporter nos fautes devant lui, comme on l'a déjà dit pendant le culte de ce matin, les mettre dans sa lumière, qu'il puisse s'en occuper, les traiter. Et en faisant cela, on ne perd pas son amour. Au contraire, c'est la condition pour que son amour puisse agir dans nos vies. On va lire le chapitre 3 du livre du prophète Zacharie. Il a vécu à la période de la fin de l'Ancien Testament, après l'exil. Et dans son livre, il répond à la question « Est-ce que Dieu aime toujours son peuple après lui avoir fait vivre le châtiment de l'exil ?» Et la réponse est oui. Celui qui touche à vous, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. Dans son livre, Zacharie donne beaucoup de visions et de prophéties, notamment concernant le Messie à venir qui sera Jésus. Et notre texte est justement une vision. Zacharie y voit Josué. Alors il ne s'agit pas de celui qui a succédé à Moïse, mais d'un homme qui était grand prêtre après l'exil. Il représente donc le peuple devant Dieu, et c'est la raison pour laquelle il fait l'objet de la vision. Mais il est aussi légitime de nous identifier à lui, simple pécheur devant Dieu, et c'est ce que je vous proposerai pour la suite de notre méditation. La vision contient un ange qui explique ce qui se passe, aussi l'ange de l'Éternel, et enfin l'accusateur, c'est-à-dire Satan. Alors je vais prendre des morceaux de cette vision et les commenter. Et ensuite, pour conclure, je lirai le texte comme il se présente, presque en entier, pas tout à fait. Et je vais simplement prendre l'une après l'autre les personnes qui apparaissent dans la vision, avec quelques apartés. On réfléchira deux fois à partir de Josué, une fois au début, une fois à la fin. Donc voici le début du texte. « Puis il me fit voir Josué, Il, c'est l'ange, et celui qui parle à la première personne, moi, je, c'est Zacharie. Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Or, Josué portait des habits très sales et se tenait debout devant l'ange. Dans notre vie de tous les jours, on fait attention d'être habillé proprement. Il ne nous viendrait pas à l'idée de mettre des vêtements sales pour aller à l'école, au travail ou autre. C'est normal de faire attention à son aspect, par respect pour les autres et pour soi. Et si on a un rendez-vous important, on fait d'autant plus attention pour faire bonne impression. Et bien, dans notre texte, on a un homme qui a le rendez-vous le plus important de sa vie. Il se tient devant le trône de Dieu. Et malheureusement pour lui, il n'a pas les bons vêtements. Il porte même les pires vêtements possibles. Un traducteur dit qu'on peut comprendre qu'il était couvert d'ordures. Comment cela se fait-il ? Nous sommes dans une vision avec des symboles et l'explication nous est donnée plus loin. Les vêtements sales représentent la faute de Josué. Celle du peuple aussi, puisque Josué était grand prêtre, mais aussi sa faute à lui. La saleté représente le mal qui a été fait. Le péché laisse des traces. Le peuple avait grandement péché dans le passé, en désobéissant avec constance au commandement de Dieu, en refusant de croire à son amour et sa bonté. C'était le peuple. Est-ce que nous sommes pécheurs? Alors, comme la culpabilité, ce n'est pas un thème à la mode dans notre société, mais la Bible nous enseigne que déjà par nature, nous sommes pécheurs et séparés de Dieu. Et ensuite, volontairement et involontairement, nous commettons des actes qui lui déplaisent. Nous faisons des choses qui s'écartent de sa volonté pour nous. Comme Josué, nous sommes devant Dieu avec notre péché, notre souillure. Quelle honte, quelle humiliation. Dans tout ce texte, dans toute la vision, Josué est passif. Il n'essaye pas de se justifier, il ne se cherche pas d'excuses. On peut remarquer que ce silence est l'attitude qui convient dans cette situation. Il s'impose. Alors à la suite de Josué, reconnaissons que devant Dieu, nous sommes dans l'impossibilité de changer notre situation. Nous sommes bloqués dans une voie sans issue. Et nous allons passer maintenant à une autre personne qui intervient dans cette vision. Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'ennemi, celui qui s'oppose à Dieu et trompe le monde, c'est Satan. Avant d'être un nom propre, Satan, dans le texte hébreu original, ça voulait dire simplement accusateur. Une de ses fonctions premières, donc, c'est d'accuser ceux qui s'approchent de Dieu, de désigner comme coupables ceux qui aiment le Seigneur. Il est comme un procureur dans un procès. Il a un rôle très facile parce que toutes les preuves sont là. Ailleurs dans la Bible, Satan est appelé le père du mensonge, mais ici, il ne fait que souligner ce qui est vrai et juste. Dieu avait donné un moyen pour le peuple pour avoir la vie. Obéir à Dieu devait conduire à la vie. On peut lire dans Ézéchiel, Dieu qui parle et qui dit « Je leur ai donné mes lois ». Je leur ai fait connaître mes commandements qui font obtenir la vie à celui qui les applique. Mais personne n'est capable de respecter ce que Dieu veut. Celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de la loi. Donc au regard de la loi donnée par Dieu et de sa sainteté, Satan, de manière objective, a facilement de quoi nous accuser. Moi, Adeline, j'ai vraiment eu une bouffée de haine envers cet automobiliste. Les faits s'imposent. On est incapable de ne pas pécher et incapable d'enlever notre péché. On va revenir sur ce point un peu plus loin, mais je voudrais maintenant qu'on passe quelques instants à réfléchir aux motivations de l'accusateur et de l'accusation de manière plus générale. Que recherche Satan ? Ce qu'il veut, c'est démolir, détruire, anéantir. Et à nous aussi, malheureusement, il arrive d'accuser les autres, sauf si vous n'êtes pas comme moi. Mais à moins d'être complètement pervers, nous n'avons pas les mêmes motivations que Satan. On peut condamner, en public ou dans notre cœur, mais pas avec les mêmes motivations. Je ne vais pas entrer dans toutes les nuances et je ne parle pas des situations où il faut mettre les choses à plat pour avancer, mais je parle d'enfermer dans un jugement négatif. Alors si nous n'avons pas les mêmes motivations que Satan, quelles sont-elles? Encore une fois, je ne vais pas proposer une liste complète, mais soumettre une piste à notre réflexion. J'ouvre une parenthèse. Avec le temps, je me rends compte que j'ai souvent une lecture des situations qui est liée à une idée, un concept, dont je vais vous parler dans une minute. Et il faut que je fasse attention de ne pas m'y enfermer. Parce qu'un système de pensée, des idées, des opinions, aussi intéressantes et pertinentes soient-elles, peuvent devenir des idoles, même basées sur des textes bibliques. C'est pour ça qu'il nous faut apprendre le plus possible à exposer nos idées, nos systèmes de pensée à l'ensemble de la Bible. Mais cela étant dit, des idées, des opinions peuvent être très fructueuses. Si elles ne deviennent pas des idoles, elles peuvent être des outils utiles par lesquels le Seigneur nous fait grandir. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc en ce moment, j'ai une lecture des situations qu'on peut rencontrer dans la vie, souvent liées au concept d'identité. Peut-être que beaucoup de problèmes naissent du fait que nous ne savons pas très bien qui nous sommes. Je m'explique, il est possible que quand on critique, quand on accuse, une partie de ce qui nous pousse à faire cela, c'est un manque d'assurance par rapport à nous-mêmes. Quand nous critiquons l'être même des autres, ne cherchons-nous pas à nous rassurer sur le fait que nous sommes quelqu'un de bien? Ou bien, de manière plus atténuée, nous pouvons critiquer non pas l'être des autres, mais ce qu'ils font? Ne serait-ce pas dû à un manque d'assurance quant à ce que nous faisons? Et ces deux types de critiques se rejoignent si nous pensons mesurer notre valeur à nous à partir de ce que nous faisons. Alors notre assurance est ailleurs que dans la comparaison avec les autres. Notre assurance première, profonde, est en Dieu. Il est notre rocher, notre secours. La validation de ce que nous faisons de bien, c'est lui qui l'a fait ou qui la fera. Pas besoin de se comparer ou d'accuser pour exister. Notre assurance sur qui nous sommes est fondée en Dieu, sur son accueil, sur son amour inconditionnel pour nous. Notre identité première et profonde est dans le regard que lui porte sur nous. Son regard en premier, son regard avant tous les autres. Je te remercie, Seigneur, pour l'assurance de ton accueil et ton amour. C'est en toi qu'est notre première identité. Nous t'aimons, Dieu. Nous t'aimons, notre Dieu. Et justement, je vous propose d'en venir à ce que Dieu dit et fait dans cette vision. Josué se tient confus devant lui et ne peut rien faire pour se rendre acceptable. Mais Dieu, lui, peut agir. Il peut apporter une solution et il ne va pas s'en priver. L'Éternel dit à l'accusateur : Que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu? Dieu n'accepte pas l'accusation de l'accusateur. C'est un refus catégorique, total. Que l'Éternel te réduise au silence. On voit bien ici qu'il n'y a aucune égalité entre Dieu et Satan. Satan est une créature de Dieu et Dieu a autorité sur lui. On peut même remarquer que dans la vision, Dieu et ceux qui parlent en son nom prennent beaucoup plus de place que Satan, dont les paroles ne sont même pas rapportées et qui n'a donc qu'un rôle secondaire. Il n'apparaît plus dans la suite. Que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Une petite question, est-ce que Dieu nous dit aussi à nous, tais-toi quand nous accusons, quand nous condamnons? Je laisse la question ouverte. Que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Choisi pour qu'elle soit à lui. Dieu a décidé d'être son Dieu, ses habitants sont son peuple. Dieu l'a voulu et a agi dans ce but. C'est le thème de l'élection qu'on trouve ailleurs dans la Bible. Dieu, l'élection, c'est Dieu lui-même qui décide et qui garantit le salut de ceux qui lui appartiennent. L'apôtre Paul écrira aux chrétiens de la région d'Éphèse, à nous aussi, « En Christ, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis. Dieu choisit de sauver des hommes et des femmes qui deviennent ses enfants et que rien ni personne ne peut arracher de sa main. » Dieu a choisi Jérusalem, Josué et ses contemporains pour qu'ils soient à lui, pour leur faire du bien. Celui qui touche à vous, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. Josué est appelé un tison arraché au feu. Le feu brûle les saletés. Il est à la fois image de jugement et de purification. Le peuple d'Israël est passé par l'épreuve du feu. Il a été jugé. L'exil a été le châtiment de ses nombreuses fautes. Arraché au feu, Josué et ses contemporains revenus de l'exil constituent un reste qui a échappé au jugement, et ce reste arraché au feu montre le désir de Dieu de pardonner. Malgré mon péché, nous restons aimés. Malgré notre péché, nous restons aimés de Dieu. Malgré mon péché, je reste aimé de Dieu. Mais cependant, il reste un problème. Et quel problème ? Que l'accusateur doive se taire, c'est une chose. Le problème, c'est qu'il a raison. Malgré l'épreuve de l'exil, le grand prêtre Josué continue de porter les péchés du peuple. Alors voilà ce que Dieu fait, et dans cette vision par l'intermédiaire d'un ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna « Ôtez-lui ses vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais. Et l'on te revêtira d'habits de fête. » Alors je m'écriai, « Qu'on lui mette un turban pur sur la tête. » On lui posa donc un turban pur sur la tête et on le revêtit d'autres habits. C'est un retournement total de la situation. Ce qui pose problème disparaît, ce qui est convenable apparaît. C'est la joie à laquelle Zacharie, qui assiste à cette vision, apporte son enthousiasme, qu'on lui mette un turban pur sur la tête. Il n'est pas dit ici que le vêtement est blanc. Par contre, il est clair que cette vision est en arrière-plan de la parabole de Jésus et des visions que Jean rapporte dans l'Apocalypse. Les vêtements y ont la même signification qu'ici, c'est-à-dire la justification, le fait qu'un pécheur est déclaré juste devant Dieu. Mais comment ? Pourquoi cela est-il possible ? Comment la faute peut-elle être enlevée ? La disparition de la souillure est-elle si simple ? Alors la fin de la vision lève le coin d'un voile sur ce qui rend possible cette justification. Je ferai venir mon serviteur qui est appelé le germe. En un seul jour, j'ôterai le poids de la faute que porte ce pays. En ce jour-là, le Seigneur des armées célestes le déclare, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Sous la vigne et sous le figuier, c'est une image habituelle dans l'Ancien Testament de prospérité et de paix. Vous vous inviterez, on voit de belles relations les uns avec les autres. Un grand bonheur est ici annoncé. Celui que produit une communion réelle et profonde de tout un peuple avec Dieu. Dans le futur, un événement rend possible cette justification et le bonheur qui en découle. Il est réalisé par mon serviteur le germe. Avant Zacharie, le prophète Ésaïe avait annoncé la venue du serviteur de l'Éternel qui allait prendre sur lui les péchés du peuple, un texte que nous connaissons bien. Eh bien, plusieurs autres prophéties annonçaient l'instauration de choses nouvelles grâce à la venue d'un descendant du roi David, désigné comme un germe issu de sa lignée. Eh bien, dans ce verset, Zacharie unit ces deux lignes prophétiques. Le Messie annoncé sera à la fois serviteur de l'Éternel et à la fois descendant de David. Il s'agit bien sûr de Jésus. Un seul jour, un événement unique, un événement qu'on n'aurait jamais imaginé. Zacharie dévoilera dans la suite de son livre quelques épisodes qui y sont liés. Je ne vais pas les lire, mais on va juste les évoquer. Le roi entrera triomphalement dans Jérusalem sur un ânon. La valeur du berger, estimée à 30 pièces d'argent, et l'argent jeté dans le temple. On se tournera vers celui qu'on a percé. Alors nous sommes le 1er décembre, premier dimanche de l'Avent, il y a la bougie qui brûle. Tout nous indique que nous approchons de Noël. Nous ne voulons pas oublier la raison de la venue de Jésus sur terre. C'est pour pouvoir mourir que Dieu s'est fait homme. En un seul jour, j'ôterai le poids de la faute que porte ce pays. Ce jour-là, c'est le jour où Jésus-Christ a donné sa vie. Lui ne portait pas de vêtements sales. Lui était pur. On a vu que Satan nous accuse à partir de la loi de Dieu. La loi apporte la connaissance du péché, mais ne peut pas donner les moyens d'en sortir. Ce que nous lisons dans Romains 8, ce que la loi était incapable de faire, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Ainsi, la juste exigence de la loi est pleinement satisfaite. En nous qui vivons, non plus conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu à cause de ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de la crucifixion de Jésus. Pour Josué, ce jour était situé dans le futur, pour nous, il est passé. Josué a pu être réhabilité à cause de ce qui s'est passé ce jour-là. Dieu a pardonné ma bouffée de haine contre l'automobiliste parce que Jésus l'a porté sur la croix. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. On a vu que Josué est passif. La seule chose qui lui est demandée dans toute la vision, dans tout ce récit, c'est de regarder. Et il reçoit le cadeau de la justification. Il est bénéficiaire, il accueille la transformation. Cela le rend apte au service. En effet, il ne s'agit pas de rester passif. Et la suite du texte montre qu'il est attendu de lui qu'il ait une conduite juste. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis les chemins que j'ai prescrits, et si tu obéis à mes commandements, tu gouverneras mon temple et tu veilleras sur mes parvis. On note cependant que cette vie droite et active vient après la justification. Elle en est une conséquence et non la cause. Mais c'est un soulagement, parce que si Josué devait gagner par lui-même sa justification, quel stress ce serait ? Et comment pourrait-il certain d'y parvenir ? C'est un stress que vivent beaucoup de nos contemporains, qui pensent gagner la faveur de Dieu par des actions. Et nous pouvons le vivre aussi nous-mêmes. Nous avons souvent besoin de réapprendre ce qu'est la grâce. La grâce de Dieu est un cadeau. Pas besoin d'essayer de rafistoler nos vieux habits pour nous faire bien voir. La grâce libère, notamment pour des actions bonnes, mais elle est d'abord reçue comme un cadeau. Elle ne se mérite pas. Recevons-la comme un cadeau. On dit parfois qu'on peut apprendre à connaître quelqu'un en regardant ce qu'il ou ce qu'elle fait. Et pour Dieu, c'est d'autant plus vrai que nous ne pouvons pas le voir. Alors comme Josué, regardons à ce que fait Dieu. Voici notre Dieu. C'était parmi les derniers mots du mariage d'hier. Voici notre Dieu. Notre Dieu renverse notre situation. Il nous réhabilite. La saleté, il la change en propreté. La souillure en pureté. L'illégitimité, on n'était pas à notre place devant lui. En légitimité, on est accueilli dans sa présence, devant son trône. L'humiliation devient rétablissement. La honte, il la change en honneur. Et la confusion en joie. Nous lisons Zacharie chapitre 3. Puis, il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, « Que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu ?» Or, Josué portait des habits très sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna « Ôtez-lui ses vêtements sales !» Puis il dit à Josué « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête. » Alors je m'écriai « Qu'on lui mette un turban pur sur la tête !» On lui posa donc le turban pur sur la tête et on le revêtit d'autres habits. Or, l'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel fit ensuite cette déclaration à Josué. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis les chemins que j'ai prescrits et si tu obéis à mes commandements, tu gouverneras mon temple et tu veilleras sur mes parvis. Je vais faire venir mon serviteur, qui est appelé le germe. En un seul jour, j'ôterai le poids de la faute que porte ce pays. En ce jour-là, le Seigneur des armées célestes le déclare, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. La pureté à la place de la souillure, la légitimité à la place de l'illégitimité. L'honneur se change en, la honte se change en honneur, la confusion devient joie. Voilà ce que fait notre Dieu. Voilà notre Dieu. Amen.